Tout d'abord, un grand merci pour votre patience. Ça a été compliqué. On ne s'attendait pas à ces différentes petites épreuves, rien d'insurmontable. Donc, merci de tous vos allers-retours et d'être quand même présent parmi nous pour assister à cet événement. Donc, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous présenter un nouvel événement que nous faisons en partenariat avec la revue Poly Politique de l'Image, dont j'ai ici une digne représentante à mes côtés, et qui va vous en dire plus un peu sur le déroulé de la soirée et sur notamment le premier débat que nous allons avoir, la table ronde que vous allez avoir sur le thème imaginaire comestible. Je vous rappelle que nous retransmettons nos débats en direct sur Internet. Donc là aussi, il a fallu qu'il soit patient, parce qu'il y a une petite demi-heure d'attente avant la retransmission. Et que vous pourrez aussi avoir accès au débat de ce soir dans nos archives audiovisuelles à la suite de ce débat, donc à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nelly Kemener, qui va vous présenter la table ronde qui suit et l'intervention d'Elspeth Probine.
Merci beaucoup, Jérémy. Au nom de la revue Poly, je tiens évidemment à remercier la Bibliothèque publique d'information d'accueillir cette manifestation, et particulièrement son pôle action culturelle et communication, service et animation, tout spécialement Jérémy Desjardins qui nous a aidé à mettre en place cet événement, et Emmanuel Payen-Voutz. Cette table ronde, les imaginaires comestibles, cuisine et médias, est donc organisée par la revue Poly, politique de l'image, à l'occasion de son 7e numéro qui consacre un dossier au titre éponyme, donc les imaginaires comestibles, et vous pourrez découvrir la revue à la sortie à la librairie Flammarion. L'idée de ce débat et de ce numéro, tout simplement, est venue d'un constat d'une mise en scène de plus en plus croissante de la cuisine, notamment dans nos représentations médiatiques. On le voit dans les émissions de télé-réalité où sont en compétition des chefs en herbe. On le voit aussi à travers des publicités qui vantent les mérites de la pêche durable. On le voit également à travers tous les débats sur la traçabilité de la viande, dont on a eu des échos particuliers récemment. L'ensemble de ces représentations médiatiques de la cuisine et de l'alimentation rejoue, selon nous, les anxiétés et les tensions du monde social. Traditionnellement associée à un art de vivre et à la domesticité, la cuisine suscite depuis les années 2000 un regain d'intérêt médiatique. On trouve des blogs, des émissions télévisées, des festivals et des productions cinématographiques dans lesquels la culture culinaire et l'alimentation sont devenus des lieux privilégiés de reformulation des identités nationales, régionales et transnationales. Autrement dit, la cuisine et l'alimentation sont devenus des performances sensorielles, des spectacles culturels et des rituels politiques dans lesquels sont mis en scène des corps, des aliments et la cuisine tout simplement. La table ronde aujourd'hui souhaite donc interroger l'ensemble de ces recettes médiatiques qui nourrissent nos identités contemporaines et compte interroger ce qu'elles nous traduisent en termes de tensions du monde social et en quoi elles participent à fabriquer nos imaginaires sociaux. Nous allons donc entamer cette séance avec une intervention d'Elspeth Probine qui sera suivie par une table ronde. Elspeth Probine est professeure en Cultural et Gender Studies à l'Université de Sydney. Ses recherches actuelles portent sur la production et la consommation alimentaire durable et seront publiées dans un ouvrage qui sortira très bientôt, qui est intitulé Swimming with Tuna, Engendering the Biocultural. L'intervention d'Elspeth Probine portera sur Sentiments océaniques, les représentations du poisson durable, et nous la remercions d'être avec nous ce soir.
Je tiens à remercier Anneli pour m'avoir invitée et Jérémy aussi. Cette présentation porte sur mes recherches actuelles que je fais sur les océans, les poissons et les communautés des pêcheurs, des gens. C'est à travers une idée de ce qu'on appelle le plus que l'humain, more than human. Alors, c'est donc une façon de regarder les assemblages des gens, des animaux, écologie et les aliments. C'est la première fois que je donne une présentation en français depuis à peu près 15 ans. Alors, je vais trébucher des fois, surtout avec héroïque, j'essaie de prononcer. Voilà. Je ne vais pas en parler beaucoup sur cette notion que Freud a utilisée pour parler de l'enfance, mais c'est quand même c'est une image de Romain Rolland qui est vraiment pour moi, c'est, ça ouvre les images. Bon, lorsque l'on vit en Australie, une île énorme, on ressent parfois viscéralement la vitalité des océans qui nous entourent. Celle-ci peut tout autant inspirer une peur physique qu'une sublime sensation d'éternité. J'ai par exemple appris à vivre avec le fait que les grands requins blancs et leurs cousins moins intimidants, les requins bulldogs, nagent avec moi dans les eaux turquoises vertes du port de Sydney. Ailleurs en Australie, il m'est arrivé de plonger en pleine mer dans une cage remplie de jeunes thons rouges. Une proximité engageante et viscérale avec les créatures aquatiques, cette fois-ci avec les poissons que j'aime manger. Et je vais aller en avant. Ça, c'est un vrai requin blond que j'ai trouvé dans un garage perdu dans un bled de sud de l'Australie. Mais j'adore. Bon, avec la récente prise, je voulais juste vous montrer le. C'est moi. Et ça, c'est Lizzie Jagger, la fille de Mick Jagger. Bon, on va revenir. Je me laisse avec le requin. Avec la récente prise de conscience des dangers, est-ce que ça. Avec la récente prise de conscience des dangers qui pèsent aujourd'hui sur les océans et sur la vie aquatique, est venue aussi la reconnaissance de leur importance. La surpêche, qui a longtemps été ignorée ou présentée comme l'exploitation légitime d'un bien commun, fait désormais l'objet d'une attention progressive dans les zones urbaines. Mais une étude australienne rapporte que sur les 7% des consommateurs qui sont concernés par la pêche durable, seuls 10% d'entre eux accepteraient de payer 10% plus cher pour acheter un poisson durable. C'est-à-dire que très peu de gens, en effet, font l'effort pour payer un peu plus pour ces poissons-là. Je souhaite explorer ici brièvement les imaginaires relatifs aux poissons durables. Je vais laisser à côté ce que l'adjectif durable peut ou devrait être, mais je peux dire que l'imaginaire de la durabilité est d'un côté gouverné par le savoir scientifique, un savoir codé selon les termes des régulations et des rapports gouvernementaux. À l'opposé, il est travaillé par les contre-discours des associations telles Greenpeace. À l'écart de ces positions, je propose de développer un regard critique sur les régimes de disciples de la publicité, ainsi que sur la façon dont la dimension genrée de la vie quotidienne y est traduite visuellement. Il me semble que si changement il doit y avoir, et il doit, celui-ci ne peut se faire qu'en ancrant dans le quotidien. C'est-à-dire, la question, c'est de comment on peut incarner la durabilité. Bon, je passe maintenant à. Voilà. La plupart des distributeurs alimentaires communiquent sur leur politique écologique. Évidemment, ça leur coûte cher, mais il n'est pas aisé quand même de trouver les spots télévisés qui promouvoient ces politiques. Ici en France, comme vous savez, l'Intermarché a largement promu ce qu'appelle sa propre flotte. Sur leur site web, qui présente fièrement leur démarche, il invite les consommateurs en ces termes. Partez à la pêche, au secret, et le slogan « La mer est notre culture ». C'est un discours fortement patriotique, comme vous voyez, et l'un des spots télévisés de la marque représente une famille blanche, supposément typiquement française, où le petit garçon demande à son père, « Papa, le poissonnier, comment il sait si son poisson est frais ? Parce qu'un poisson, ça parle pas. » Cute. Tandis que le père vante en voix off les mérites de la flotte d'Intermarché, se succèdent les images d'une flottille d'hommes héroïques dont des canaux fondant l'océan sur musique martiale aussi héroïque. Le père rassure ainsi son fils, ce sont les hommes forts qui sont en charge de poissons. Et qui n'est tout, est-il surprenant que dans cette prise, cette reprise archétypale du récit du combat de l'homme contre la nature, la mer soit complètement absente? On retrouve cette imagerie du geste héroïque dans les publicités du distributeur britannique Waitrose, qui est de haut de gamme. Qui met en scène le célèbre chef Heston Blumenthal sur un chalutier dans les eaux agitées d'Islande. Ce chef, particulièrement médiatique, je ne sais pas s'il est très connu en France, il est moins macho que Gordon Ramsay. Mais d'une autre façon. Et il déclare que ces poissons sont pêchés à la ligne, donc de façon durable. La séquence suivante nous amène brusquement sur le plan de travail d'une cuisine immaculée installée sur un glacier, où le chef cuisine un cabillaud. Il est intéressant que Waitrose a choisi ce chef Blumenthal comme porte-parole d'un message sur la durabilité. Il incarne une cuisine moléculaire, comme on va goûter peut-être en haut, mais pour rendre les aliments du départ non identifiables. Il semble tout faire pour s'assurer que ces plats n'aient plus aucune connexion avec une connotation domestique et genrée de la sphère où on fait la cuisine familiale. L'une des plus célèbres marques de poissons en boîte est John West, dont le monde anglophone, au moins, son slogan est particulièrement connu. C'est tout simplement que le poisson John West rejette qui fait que John West est le meilleur. It's because of the fish we throw away. Whatever. Bien que ça soit perçu et représenté comme une institution britannique, le marque est aujourd'hui la propriété de The Union, un groupe thaïlandais spécialisé dans l'industrie et les fruits de mer. Jusqu'à récemment, le plus célèbre publicité de John West montrait un pêcheur se battant avec un ours pour lui prendre un saumon. Une publicité qui propage sur le web à la vitesse de l'éclair et il y avait eu à peu près 300 millions de vues. Son succès est sans doute principalement forgé auprès des jeunes garçons. L'homme finit par battre physiquement l'ours. Oups. Ah oui. ça, je voulais juste juxtaposer. Alors là, Perfectly Cut, ça se traduit, comme vous voyez, le pêcheur. Puis là, c'était lors en Amsterdam, quelqu'un m'en avait parlé de ce revue danoise qui fait une espèce de porno poisson comme ça. Bon. Le mode d'adresse des campagnes décrites est significatif. Des exemples que j'ai pu trouver montrent tous les hommes souvent dans une posture héroïque. Bien sûr, cet aspect n'est pas sans résonner avec l'idéologie contemporaine du pêcheur professionnel associant masculinité, individualisme et dureté. Par contre, dans l'ensemble, ce sont les femmes qui, à travers le monde, font les courses alimentaires et l'essentiel de la préparation des repas. Un rapport de l'ONU affirme également, les études sur les tendances de consommation dans les pays développés montrent que les femmes ont plus de chances que les hommes d'acheter des produits bio, recyclables, etc. Je ne souhaite pas ici faire un lien causal entre la sémiotique et les orientations politiques. Sans doute les concepteurs de ces publicités trouvent-ils dans le mythe du pêcheur vaillant et héroïque affrontant seul ou en compagnie masculine le déchaînement des océans une source d'inspiration à la fois riche et séduisante. Mais au-delà du mythe lui-même, c'est probablement la rhétorique visuelle qui échoue à inciter les consommateurs à l'achat du poisson durable. En effet, on voit bien que les entreprises spécialisées dans la production de poissons ne sont pas seules. Ici, c'est un slogan du site du WWF, World Wildlife Foundation, où on dit « The future is man-made », le futur est façonné par l'homme. Et si on s'est retenté de prendre un tel slogan pour une parodie commise par quelconque groupe écoféministe, il est pourtant évident qu'ils sont très sincères. Chaque jour, dans chaque petite décision du quotidien, nous dessinons le futur de notre planète. Ce que nous achetons, ce que nous mangeons, nos manières de voyager, le futur de la planète est entre nos mains. Le futur est façonné par l'homme. Je vais juste... Nelly, comment ça va le temps?
Très bien.
Oui, ouais, ça va. Bon, ce sont des images sur le site. Ça, c'est particulièrement frappant. Bon. Un tel discours propose une perspective tout à fait limitée quant aux relations complexes qui nous lient à notre environnement et brouille donc les frontières entre biologie et culturel, entre humains et non humains. S'il s'agit de faire des enjeux de la pêche durable un véritable engagement public, le mode d'adresse doit être a nécessairement fait preuve d'une force d'imagination et d'engagement. En guise de conclusion, je souhaite évoquer une série d'expérimentations artistiques invitant à un tour à la dimension tactile auquel renvoie la notion de sentiment océanique de Rollon. Ici, c'est quelques images des nombreux projets de Nathalie Germadinko, une artiste à formation de biologiste, génie de santé environnementale de l'Université de New York, où elle dirige ce qu'elle appelle « the Center for Environmental Health ». L'impressionnante tactilité de ces expérimentations permet l'émergence de toutes sortes de nouvelles idées, mais aussi, à un niveau très pragmatique, connecte les corps à la fois physiquement et par la pensée. Alors là, ce sont les petits cubes qu'elle fait qui sont mélangés avec du gin, mais aussi avec une espèce de truc qui va purifier le mercure des poissons. Ça aussi. Et ici, elle fait les appâts qu'on pêche dans l'océan, et si c'est Brooklyn Bridge, pour guérir les poissons. Ce que j'aime beaucoup de sa perspective, il n'y a nulle moralité. Souvent, on retrouve à la fois dans les bonnes intentions des groupes une espèce de moralité très stricte, ce que n'engage pas, je crois, les gens aussi largement qu'on doit. Bon, pour conclure, on peut constater que le mode d'adresse de la plupart des spots télévisés tend à être distinctement masculin. En effet, le fil directeur de ces images reste l'individu héroïque. Et mon propos ne veut pas être libéral, je ne veux pas dire qu'il s'agit d'avoir seulement plus de femmes dans le cadre, même si leur absence est particulièrement frappante. Il s'agit plutôt d'interroger les façons dont ces représentations nous éloignent de formes d'engagement plus larges et une vision plus convaincante et, dis-je, plus touchante quant aux raisons pour lesquelles les enjeux écologiques sont essentiels. Sans cela, la notion de durabilité, voire son champ d'action réduit à la seule mesure à des fins de marketing. La possibilité de ne faire qu'un avec les océans, qui, selon moi, devrait être au fondement de toute pensée bioculturelle, court ainsi le risque d'être réduite à néant. Et là encore, ces expérimentations. Et je finis avec une belle photo des jellyfish. Les méduses, oui, parce que j'ai coupé la partie où j'ai décrit et quand j'ai nagé avec les méduses. Mais aussi, comme vous savez, je ne sais pas, mais au moins dans le monde anglophone, quand on veut vraiment démontrer que les enjeux sont sérieux, on le sait, mais on dit... bientôt, il n'y aura rien dans les océans que des méduses. Et en fait, Eston Blumenthal a fait un sandwich aux méduses. Bon, avec ça, je vous remercie pour mon français excréable et mon texte très, très découpé. Anyway, merci.
On va passer à la table ronde. J'invite Valérie Boudier, Anne-Hélène Delavigne, Sidonie Nolin et Elsbeth Probine à me rejoindre, ainsi que Marion Coville, qui va co-présenter. Avant de commencer la partie table ronde, je tenais à vous préciser qu'il va y avoir à la fin de cet événement, donc la table ronde va durer à peu près 45 minutes, il y aura des questions ensuite de la salle, et à la sortie, vous aurez une performance culinaire, une sculpture culinaire qui a été mise en place par Julie Frochon et Alessandrine... Leclerc, pardon, et qu'on vous invitera bien entendu à voir et à goûter. Nous allons donc commencer cette partie plutôt table ronde. Nous avons des intervenantes qui ont également publié dans la revue Polypolitique de l'image, dont vous voyez le numéro ici à la table. Alors avec nous, nous avons donc Valérie Boudier, qui est enseignante-chercheuse en histoire de l'art au laboratoire Centre d'études d'art contemporain de l'Université Lille 3. Anne-Hélène Delavigne, ethnologue et au laboratoire éco-anthropologie et ethnobiologie CNRS Musée National de l'Homme, non, Musée de l'Histoire Naturelle, excuse-moi. Sidonie Nolin, sociologue au laboratoire GEMAS de l'Université Sorbonne, et Elsbeth Probine, que je ne représente plus. Ce débat sera animé avec Marion Coville de la revue Poly également. Pour commencer ce débat, on a pensé tout d'abord aborder la question plutôt par le biais contemporain, on va dire, des émissions culinaires, celles que l'on connaît, qui sont maintenant diffusées principalement sur TF1 et M6, à savoir Masterchef et Top Chef, émissions culinaires qui se sont clairement emparées du terrain de la cuisine pour en faire un lieu privilégié de reformulation des identités et qui pose un certain nombre de questions, notamment en termes de genre, de classe, de francité ou d'imaginaire national, on va dire. Elle donne en tout cas à voir la cuisine non plus simplement comme un patrimoine, mais comme le lieu d'expression de talent individuel, un lieu de compétition également entre différents chefs en herbe. Sidonie Nolin, dans votre travail, vous vous êtes principalement intéressé au rôle et au statut des journalistes culinaires. Est-ce que, depuis l'avènement des émissions, notamment de compétition de chefs, vous avez vu une transformation ou vous assistez à une transformation de l'image du journaliste culinaire ?
Alors, pour le... Ça marche ? Oui, pour l'image du journaliste, je ne sais pas exactement. En fait, j'ai fait mon enquête de terrain essentiellement en 2008-2009. Donc, c'était au tout début des émissions Top Chef, Master Chef. Dans le monde journalistique, ces émissions avaient plutôt mauvaise presse parce que l'image de la cuisine qui était véhiculée n'était pas forcément celle que les journalistes auraient eu envie de défendre. Après, progressivement, les journalistes ont aussi vu dans ces émissions un moyen de faire passer certains messages concernant l'alimentation et la cuisine avec une dimension un petit peu éducative qui rejoignait par là les préoccupations des journalistes. Cela étant, pour ce qui est de l'image à proprement parler des journalistes, je ne sais pas si elle a réellement changé, parce qu'en réalité, on voit assez peu de journalistes culinaires dans ces émissions à proprement parler. Les acteurs principaux sont souvent des grands chefs, des chefs 3 étoiles, des chefs étoilés, ou des animateurs de télévision qui ne sont pas spécialisés dans la cuisine et dans la gastronomie. Et il est assez rare d'avoir des critiques de restaurants ou des journalistes qui apparaissent. Alors c'est le cas sur Masterchef, je crois, avec Sébastien Demorand, qui est lui un critique professionnel, qui a une activité de critique, dont c'est l'activité principale. Et parfois, effectivement, les émissions aussi mettent en scène les critiques de restaurants avec des thématiques spéciales où les candidats sont amenés à créer un restaurant éphémère et sont jugés par des critiques. Donc là, il y a une mise en scène des critiques et en même temps aussi des blogueurs. Alors c'est intéressant de voir que les blogueurs, cette fois-ci culinaires, qui vont critiquer les restaurants, sont mis sur le même plan que les journalistes. Mais cela dit, le rôle du critique gastronomique reste très traditionnel et se réfère toujours à l'image qu'on a de l'inspecteur du guide Michelin qui vient sanctionner en disant « c'est bon, c'est pas bon ». Et je ne suis pas certaine qu'il y ait une évolution majeure sur la façon de se représenter la profession au travers de ces émissions.
Et en même temps, dans votre article, pour le coup, pour Polly, vous évoquez une autre image de critique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors j'ai étudié le cas de Françoise Simon, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est en France actuellement le critique de restaurant pour la presse et à la télévision qui est le plus connu, même si sa notoriété est quand même assez limitée auprès du grand public, en tout cas qui ne s'intéresse pas à la gastronomie. Alors c'est un critique, j'ai étudié la façon dont il avait réussi à se faire connaître et se faire reconnaître comme critique de restaurant. Et ce que je montre, c'est qu'il a réussi à incarner, à donner des preuves de son statut de critique au travers à la fois de ses émissions de télévision et de ses écrits, en essayant d'incarner la figure idéale typique du critique gastronomique qui est l'inspecteur du guide Michelin. Alors vous avez tous en tête, je pense, cette figure de l'inspecteur, notamment dans les films avec Louis de Funès, Le Grand Restaurant et autres, où on voit quelqu'un qui arrive complètement incognito, déguisé, et qui, incognito ou pas, ça dépend s'il est connu du restaurateur, il essaye en tout cas de passer incognito, et qui a un arsenal pour mesurer les qualités du restaurant, donc un thermomètre pour la température, des pipettes pour faire des prélèvements, etc. Donc avec l'idée dans l'imaginaire que le critique du guide Michelin serait une sorte de scientifique qui mesurerait de manière complètement objective la qualité du restaurant et de manière anonyme. Et ce qui est intéressant, c'est que François Simon défend une vision très journalistique de son métier de critique. Pour lui, le critique, c'est un journaliste qui doit respecter un standard de déontologie, c'est-à-dire aller de manière anonyme dans les restaurants, régler son addition. Et tout le paradoxe, c'est de réussir à se faire connaître et reconnaître en étant anonyme. puisque s'il suit ses principes professionnels, il doit être anonyme et en même temps, en tant que journaliste, il a aussi envie d'être reconnu comme critique gastronomique. Donc c'est paradoxal, le Michelin arrive très bien à faire ça parce que le Michelin dissocie la notoriété du guide de l'anonymat de ses inspecteurs. Quand on est un individu isolé, on ne peut pas faire cette dissociation. Donc François Simon a mis en scène en fait ce métier de critique et il a une émission à la télé sur Direct 8 actuellement, il a commencé sur Paris Première, où en fait il arrive à critiquer le restaurant, donc il a une caméra. Il va aussi déguiser plus ou moins dans les restaurants et on suit, quand on regarde son émission, on est à sa place, c'est-à-dire qu'on voit avec ses yeux, puisqu'on voit ce que lui voit depuis sa table. On voit son assiette, le convive qui est en face de lui, enfin, il anonymise le visage, mais on voit ses mains et son plat. Et il y a tout un tas de preuves aussi de sa scientificité, avec la mesure de la température qui apparaît en surimpression sur l'écran, et la mesure du volume sonore du restaurant. Donc, en fait, il incarne cette figure du critique telle qu'on l'avait dans le guide Michelin. Et à l'écrit, c'est plus difficile, donc, parce qu'il écrit aussi dans la presse, mais il réussit à montrer son indépendance par rapport au restaurateur, par d'autres biais, notamment par un style littéraire tout à fait particulier quand il écrit ses articles, avec notamment un ton assez, à la fois littéraire, qui est assez savoureux à lire, et assez acide, et parfois il fait des critiques négatives, ce qui est complètement original, on va dire, dans le monde du journalisme gastronomique, puisqu'en règle générale, les journalistes gastronomiques ne critiquent quasiment jamais négativement un restaurant.
Mais alors, qu'il s'agisse des émissions de télé, enfin, dites de télé-réalité comme Top Chef ou Master Chef, des critiques par les journalistes, ou même des publicités dont vous avez parlé tout à l'heure, on est finalement face à des représentations très, très contemporaines du geste culinaire, mais on trouve aussi des formes plus anciennes ou plus artistiques des mets, du festin. Est-ce que, Valérie Boudier, vous pourriez nous en dire plus sur cette question, la place qui est accordée à la table dans la peinture moderne ?
Dans la peinture moderne ?
Dans la peinture ou plus ancienne,
Moi, je suis plutôt spécialiste de la Renaissance.
Donc la représentation picturale de la table.
Donc moi, je suis plutôt spécialiste de la Renaissance, mais effectivement, la représentation de la table, elle est là depuis très très longtemps. Et c'est vrai que c'est la table et ses effets visuels hein, qui intéressent beaucoup. C'est pas trop le mangeur ou le buveur. Hein. À l'époque, hein, on aime peu représenter l'acte de manger. C'est pas ça. On ne doit pas représenter les dents, la langue, la bouche ouverte, tout ça. Ça, c'est quand même les corps ouverts, voilà, ça c'est quelque chose qui se fait peu. Il y a des critères de représentation et la table, par contre, là, on est sur du visuel, alors sur des aliments qui souvent sont assez dégoûtants à manger, comme le pain remplumé, alors cuit et puis éventuellement présenté sur table. Plumé, enfin réemplumé, des objets très très spectaculaires et qui en fait au bout du compte n'étaient pas terribles. Hein. C'est vraiment le visuel qui compte avant tout, plus que le goût en fait. Au 19e, ça va être un peu aussi sur cette idée de l'importance de l'ostentation en fait et de la beauté de la table. Aujourd'hui on est sur autre chose. Alors je vous parle de tout ça parce que en peinture c'est vrai que représenter un aliment cuit, une compote, une purée, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc voilà, il faut des choses très en volume, très colorées, des rots, voilà, des animaux replumés ou voilà, des tourtes, des pâtés, des choses voilà, en volume. Et c'est vrai que le 19e va exploiter cette idée-là. Les carèmes, les grands cuisiniers du 19e reprennent cette idée d'une pâtisserie ou de choses très volumétriques avec des cuisiniers qui se tournent vers des artistes, par exemple, déjà au 19e, des sculpteurs éventuellement pour introduire de la plasticité, enfin du volume sur la table. Et ça se continue encore aujourd'hui avec le 20e, puisque les cuisiniers hein, et les artistes contemporains commencent vraiment à dialoguer, enfin vraiment fortement. Là, en ce moment, c'est très, très, très présent. Voilà.
En même temps, parler de la cuisine, c'est aussi évoquer l'imaginaire des aliments. Anne-Hélène Delavigne, vous avez, dans vos travaux, beaucoup parlé des imaginaires de la viande ou des discours qui entouraient la viande, alors notamment au Danemark, mais aussi, je crois, en France. Quel regard portez-vous sur les scandales récents qui se sont déroulés autour de la question, notamment de la viande de cheval dans les lasagnes Findus, ou en quoi vous raccrochez ça, finalement, à ce que vous avez pu analyser en France ou au Danemark sur l'imaginaire ou le type de réaction que peut provoquer la question de la viande.
Là, la question de Findus, c'était la filière cheval qui était touchée. Et on peut dire que c'est assez symptomatique de la façon dont la viande est produite de nos jours, puisqu'on est dans des filières industrielles avec des animaux qui vont être entièrement démembrés en fonction des consommations des personnes. Et donc, on va avoir des morceaux d'animaux qui vont se balader à travers le monde. Et du coup, ça peut donner justement ces problèmes, comme on a connu avec la filière chevaline. Hein, pour le bœuf, on a la même chose, puisqu'on va avoir, on va recevoir les arrières de bovins d'Allemagne en France puisqu'on consomme du beefsteak. On va envoyer nos jeunes bovins vers le sud de l'Europe, l'Espagne, la Grèce, parce que la viande est plus blanche et qu'en France, on préfère la viande rouge. Donc, il y a toute cette circulation de viande, de morceaux, fonction des marchés, des usages culinaires qui rend fragile en fait, ces filières viande.
Mais en même temps, on se dit que dans ce type de scandale, il y a aussi une sorte de discours qui se met en place, qui est celui d'une filière qui serait moins sûre que la filière française, par exemple, puisque là, il y avait aussi tout cet imaginaire un peu stéréotypé, on pourrait dire aussi, de la viande de cheval qui venait de Roumanie, etc. Vous parliez dans un des articles que vous avez écrit sur le manger danois. Est-ce qu'il y aurait une sorte de manger français derrière, finalement, ce type de scandales-là ou une sorte de discours qui...
Alors, les scandales alimentaires, ils vont être repris ou être le support à d'autres rapports géopolitiques ou entre pays et alimenter des polémiques qui existent par ailleurs. Et bon, par exemple, ce que j'avais étudié pour le Danemark, c'était la façon dont les peurs alimentaires, au moment dans les années 90, au moment où il y avait la construction européenne concrète et des négociations pour harmoniser les législations, allaient jouer dans une espèce de prise de conscience identitaire des Danois pour se défendre, puisque c'est un petit pays qui se aux marges de l'Europe, donc qui avait l'impression qu'il allait être englouti par ces institutions européennes. Et donc les scandales alimentaires par rapport aux normes liées au salmonelle, au listeria, rentraient dans ces débats politiques avec l'idée que les normes de son propre pays seraient supérieures. Et donc une espèce de conscientisation autour de ces identités nationales dans le cadre duquel rentrent les peurs alimentaires. Donc il y a eu ça pour le concombre là, tueur, hein, qui a mis en cause tous les rapports entre l'Allemagne, les pays du Sud.
C'est en fait récurrent, enfin, depuis le Moyen-Âge, il y a des vagues comme ça de peurs alimentaires, que ce soit le concombre, la charcuterie, la viande, le poulet. Enfin.
Ouais, et qui du coup montre comment, concrètement, le label français, par exemple, peut rassurer alors qu'il repose sur rien de tangible. Enfin, si on compare les législations nationales, il n'y a pas au Danemark, on va protéger les législations danoises d'une façon qui n'est pas plus justifiée que celle qu'on va faire en France. Ça va rentrer aussi dans d'autres habitudes alimentaires, d'autres rapports aux peurs, rapports au corps. Donc tout ça est à prendre en compte quand il y a ces scandales qui enflamment. Qui enflamment les personnes et qui remettent des frontières artificiellement, en fait, puisque, vous voyez, au niveau des marchés, tout est internationalisé. Donc, Oui, c'est totalement déconnecté de la réalité du monde de l'agroalimentaire qui aujourd'hui fait de grands groupes. Et bon, spécialement pour la viande, c'est venu peut-être plus tardivement que pour d'autres filières. Mais il y a des délocalisations qui rendent complètement caduque ce genre de ressort identitaire. Ouais.
Valérie, vous voyez des traces de ce type de peur-là dans ce que vous avez pu analyser de la représentation picturale, pour le coup, des aliments, ou c'est quelque chose qui vous semble assez peut-être éloigné, on va dire, en tout cas de...
Moi, j'ai étudié la représentation de la boucherie à Bologne au XVIe. Alors, sur les tableaux, c'est difficile de parler de ce type de problème. En revanche, il y a des textes à l'époque qu'on peut croiser avec la représentation picturale sur justement la corporation des bouchers dès l'époque, au XVIe, qui revendique une qualité de la viande et qui explique que la viande, le bœuf, doit arriver vivant et en bonne santé chez le boucher avant d'être abattu chez le boucher. Et ressort donc en viande. Et ça, c'est pour contre cette peur que la population bolognaise a de viande malade. Et il y en avait. Pareil pour le cochon. Il faut que l'animal soit en bonne santé quand il rentre dans la boutique du boucher. Et ça, c'est au sein de la corporation, il y a des textes. Mais bon, c'est la même chose aussi durant le Moyen-Âge avec cette histoire de charcuterie où il semble qu'il y ait eu vraiment des scandales de charcuterie de tout et n'importe quoi avec des charcuteries de chat, on peut faire de la charcuterie de tout, de rat ou autre joyeuseté. Et en fait, les bouchers, les charcutiers, c'est ceux qui cuisent la viande. Quand la viande est cuite, elle ressemble plus vraiment au truc initial. Donc là, la corporation des bouchers a voulu vraiment se séparer de la corporation des charcutiers. Pour donc une revendication d'une noblesse. Il y a plein d'autres exemples. Il y a un bouquin qui a été écrit par Madeleine Ferrière qui porte sur ces peurs alimentaires de l'Antiquité à nos jours. Et je vous conseille de le lire. Voilà.
Et justement, à travers ces peurs alimentaires, on voit aussi que la viande, finalement, a tendance à susciter soit de la fascination, soit une répulsion. Elspeth Probyne, sur cette même idée, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un imaginaire particulier lié au poisson? Est-ce qu'il y a des vertus qu'on lui attribue et est-ce qu'elles se construisent en opposition avec la viande?
C'est intéressant, suivant ce que vous avez dit, c'est vraiment la peur alimentaire, c'est une peur de quelque chose qui entre en contact. Et dans un bouquin que j'ai écrit pourtant sur le dégoût, c'est une scène fameuse de Darwin où il exprime un dégoût profond parce qu'il y a un indigène qui touche le même portion de viande que lui. Alors c'est comme si à travers la viande il y avait une connexion comme ça. Et on voit ça avec le bovin, les vaches folles. Mais aussi c'est toujours dans les régulations qu'on essaie d'imposer une séparation qui, comme vous dites, dans le business d'aujourd'hui, n'est plus possible. Je pense en ce moment en Australie, il y a une espèce de fureur parce que le plus grand supermarché qui prône leur pain fait fraîchement sur place vient de l'Irlande. C'est quand même loin, l'Irlande en Australie. Mais qu'est-ce qui arrive avec les poissons? C'est, pendant un certain moment, on avait l'idée du poisson qui était plus libre, plus sauvage, quoi. Mais maintenant, avec les saumons qui sont vraiment les pêcheurs deviennent les fermiers. Et c'est là où on voit le type de produit qui met dans le poisson qui fait que les poissons sont plus les poissons. Et évidemment, l'enjeu, c'est avec ces thons que j'ai nagé avec. Ils sont pêchés il y a 1000 kilomètres dans l'océan. Et puis là, ils sont pris dans une cage parce qu'à cause des quotas, tu peux prendre les petits thons rouges et les faire grossir. Et là, tu es dans une espèce de cage et ils ont le bouffe tout à fait préparé. Et là, ils sont achetés par les Japonais. Et là, je vous rappelle, un poisson rouge peut coûter à 500 000 $ un poisson, parce que ça va directement dans le sushi. Alors les Japonais les achètent et puis ils vont venir dans les cages à l'eau pour couper un petit morceau pour manger, pour voir lorsque l'animal est vivant si ça goûte ou pas. Alors c'est encore cette idée de qu'est-ce qui va dans notre à manger et qu'est-ce qui va entrer dans nous. Et de l'autre côté, on a des messages portant sur la santé que je ne sais pas si c'est ici, je sais que ce n'est pas pareil. En Australie et en Angleterre, tout est ajouté avec l'oméga 3. Et tout le monde achète les bottes comme ça, les boîtes comme ça de l'oméga 3. L'oméga, ça vient des poissons. Maintenant, on injecte dans le pain l'oméga 3. Et on injecte les poissons qui sont en train d'être fermiers, élevés. Ils injectent l'oméga 3 des autres poissons dans les poissons. Alors, c'est rendu tellement intensément interlié. C'est vraiment difficile maintenant de se mettre à part de tout ça.
Et est-ce que, Sidonie, est-ce qu'on peut retrouver aussi cet intérêt pour l'aliment au sein de la critique? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la cuisine, on parle de plus en plus de sublimer le produit, de sublimer l'aliment. Est-ce que vous avez retrouvé ça aussi dans la critique par les journalistes?
Oui, alors il y a un intérêt pour l'aliment, notamment chez les journalistes culinaires qui parlent de recettes et de produits, où là, pour le coup, effectivement, il y a des articles qui sont écrits sur les produits. En revanche, il y a une particularité du journalisme culinaire et gastronomique qui est que c'est un journaliste qui est vraiment sur une posture hédonique. En gros, l'alimentation, c'est du plaisir, c'est de la convivialité. Et tout ce qui est problématique, donc tout ce dont vous parlez, les peurs alimentaires, les pratiques douteuses dans le milieu de l'agroalimentaire et même de la restauration, tout ça est quasiment absent des pages, en tout cas, soit des magazines spécialisés, soit dans la presse qu'on lit quand il y a une page gastronomie au restaurant. On aborde assez rarement ces questions-là. Et ces questions, en revanche, sont abordées par par des journalistes d'investigation, mais qui ne sont pas spécialisés sur les questions alimentaires. Donc en fait, moi je me suis intéressée à la presse gastronomique et aux gens qui travaillent, qui sont journalistes gastronomiques, donc dont c'est le métier de parler de la nourriture sous toutes ses formes, hein, du produit, du producteur et de la transformation et du produit après du plat. Ces journalistes-là, en tout cas, sont assez peu sensibles, enfin, je ne sais pas s'ils sont assez peu sensibles, en tout cas, au travers de leurs écrits, ne mettent pas en évidence toutes ces dimensions anxiogènes ou problématiques de l'alimentation. Mais en revanche, il y a un intérêt pour le produit et pour la valorisation des aspects sanitaires du produit ou de ces aspects. Oui.
Juste ajouter, il y a une chose différente en Australie où la plupart des critiques des restos, etc., étaient les publicitaires. Et c'était pendant les années 80 où on faisait le long lunch avec les déjeuners luxueux. Qu'est née la génération courante des gens qui sont des critiques.
Oui, alors, après, une piste d'explication, effectivement, de cette absence des questions problématiques dans la presse culinaire et gastronomique, ce serait effectivement les liens que les journalistes entretiennent avec aussi bien les producteurs que les restaurateurs. Il y a effectivement une très forte proximité qui fait que grosso modo, leurs métiers sont liés. Enfin, si les journalistes se mettent à dire du mal des gens dont ils rapportent l'activité, leur propre activité va en pâtir. Donc effectivement, je pense que ces liens avec toutes les relations presse, les relations qui existent entre chefs et critiques et entre producteurs et journalistes culinaires sont effectivement très forts et sont peut-être aussi une piste d'explication. Mais je pense que c'est aussi des politiques éditoriales. Enfin, c'est aussi un choix, au-delà de ces relations-là, c'est aussi un choix de présenter la nourriture et l'alimentation. C'est comme à la télévision dans les émissions dont on parlait tout à l'heure. Il y a toujours une dimension très positive. Enfin, on présente toujours l'alimentation comme quelque chose d'étant extrêmement positif, extrêmement convivial et plutôt rassurant. On a cette même manière d'appréhender l'alimentation, je pense.
Anne-Hélène et Valérie, vous avez écrit dans Poly un article qui revient justement sur les imaginaires de la viande. On va montrer quelques images que vous nous avez transmises qui ont trait à votre article. Et pour résumer très, très simplement, disons, l'un des fils directeurs de l'article, vous y évoquez en fait le passage de la représentation noble de la viande à une représentation plus morbide, voire répulsive. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ou revenir sur les évolutions de l'esthétique de la viande en tant qu'elles traduisent finalement des transformations plutôt socio-économiques ?
Oui, dans le corpus qu'on a étudié, on s'est intéressé à ce qui est ce qu'on appelle une tradition en histoire de l'art quand on a considéré le motif de l'animal abattu. À partir justement de ce tableau de Rembrandt, donc où là on a
le bœuf écorché, donc 1665.
Oui. Donc là on a dans le titre même on a un animal et cette représentation de l'animal qui est dans ses premières natures mortes va au fil du temps et des années disparaître pour être remplacée par ce qu'on appelle maintenant la carcasse qui reste ce bœuf écorché mais dont le terme même ne va plus rendre cette réalité des animaux et puis on va voir apparaître toute cette production industrielle dont je parlais dans les œuvres picturales avec des représentations sérielles hein, des carcasses. Donc là, vous avez celle de...
Anne Ferrer. On est en 1991.
Bon, il y a celle de Philippe Cognier aussi, où donc on rencontre là d'un monde d'une production où l'animal lui-même disparaît et ça va correspondre à des modes de consommation où l'origine animale, et on en parlait encore à propos des scandales liés au cheval, va disparaître de la viande qu'on consomme, où l'unité même qui était la carcasse dans les processus de transformation de l'animal en viande va disparaître au profit de la matière finale qui va être le beefsteak, qui va aussi constituer les dernières œuvres qu'on a étudiées, hein, puisqu'on s'est intéressé à la robe... à la robe en viande faite par Jeanne Sterbach. Et vous voyez comment tous les motifs bouchés, tous les motifs de carcasse sont là dans la verticalité, dans les outils de boucher. Mais on a le beefsteak qui va constituer reprendre ce motif de carcasse. Donc par ce biais-là, nous, ce qui nous a intéressé, enfin moi en tant qu'ethnologue m'intéressant aux représentations liées aux animaux qu'on tue pour se nourrir, c'est justement ce que ça peut nous apprendre des représentations majoritaires dont on n'est pas toujours conscient et qui là sont voilà peuvent être lues à partir de ces œuvres d'art. Je vais passer le micro à Valérie.
Alors simplement pour rebondir sur la présence de la femme aussi et ces enjeux entre le genre et l'aliment, c'est vrai que ici on l'a, mais précédemment aussi dans la production d'Anne Ferrer, avec ce monde très masculin qui est le monde de l'abattoir, du travail à la chaîne, de ce travail de force et de sang qui est là transformé par cet artiste qui nous propose des carcasses complètement incroyables dans la lignée de Annette Messinger sur le tissu, le froufrou et comment c'est détourné. La même chose pour... Sterbach avec sa robe de viande de 1987. Et la deuxième version est à Beaubourg, enfin a été achetée hein, par Beaubourg en 2009, je crois. Vous voyez, la première, on est encore sur celle de gauche, là, vraiment le beefsteak. On est encore sur cette idée de verticalité, du crochet, de la viande pendue. Hein. Le motif de la viande, de la carcasse pendue est très importante aussi dans les peintures, même du 16e, qu'on a vu rapidement, parce qu'elle permet encore ce volume dont je vous parlais, qui est très important, ce rendu, ces couleurs. Hein. On aime le rouge. Ce qui m'intéresse aussi dans la représentation de la viande, c'est qu'est-ce que c'est que cette viande, hein, comment on la représente. Elle est plus ou moins rouge. Vous voyez que dans les Flandres au 16e, on aime le bœuf bien gras, donc on aime aussi un bœuf, on aime le gras en fait, hein. Et c'est vrai qu'en France au début du siècle, je crois qu'on aimait davantage la viande persillée ou... Oui,
mais c'est lié à la conservation, au goût, à la cuisine, au pot-au-feu qu'on faisait et aussi à la conservation, les bouchers avant l'avènement du froid qui a vraiment bouleversé toute la filière et l'a industrialisé, avaient besoin du gras pour que cette masse de viande de 300 à 700 kilos qu'il fallait qu'ils vendent dans un temps quand même restreint puisse durer le plus longtemps possible. Donc il y a des questions aussi techniques.
Ouais, de goût et de technique. Et donc chez Sterbach, je reviens, vous voyez comment après la robe de viande, hein, qui est toujours cette même robe qui, durant une exposition, va bien sûr évoluer, hein, puisque la viande va peu à peu s'assécher, se transformer. Et vous voyez la viande de droite, hein, c'est celle qu'on propose généralement au public, et une robe de chair donc, qui... se rattache davantage à la mode, hein, au travail de la haute couture presque, hein, qui a perdu ce côté vraiment dur et sanguignolant, hein, de cette robe de 87. Hein, donc, 20 ans plus tard, on est en... Oui, c'est ça. On a une évolution de l'œuvre, en fait, du monde du boucher et de la couture un peu, mais... là, de la haute couture, et c'est beaucoup plus féminisé, je trouve. Voilà. Bon, c'est un peu rapide. Hein. Ouais. Et on a ça aussi.
Oui, parce que là, c'est la façon dont ça allait venir. Médiatiquement, justement, va être utilisée la charge très sulfureuse qu'ont toujours porté les représentations de viande, et là, qui va du coup se canaliser avec cette chanteuse. Pour porter un combat un peu n'importe lequel, hein, du moment qu'en fait cette charge de scandale va attirer l'attention. Et souvent, y compris les critiques d'art, hein, dès qu'il y a une exposition, dès qu'il y a un tableau où il y a une représentation liée à la viande, à l'animal mort écorché, on va oublier toute l'œuvre, tout le travail artistique et tout le sens pour se focaliser sur justement ce que vous disiez, là, cet aspect répugnant, dégoûtant, et du coup on s'empêche de voir la diversité des œuvres, on s'empêche de comprendre en fait tout l'univers complexe que va porter une représentation, sa place au sein d'une société, dans la trajectoire d'un peintre, je sais pas, comme Soutine, enfin voilà. Elisabeth.
C'est intéressant que vous avez sorti l'exemple de Jana Sternbach. Je vivais au Canada lorsque, et oui, ça a fait scandale, bla bla bla. Mais le lien que je trouvais intéressant, c'est un terme que proposent deux anthropologues. C'est l'intime métabolique. Metabolic intimacy. Et là, il parle du cadre de comment, en Europe au moins, c'était normal de vivre avec les animaux, surtout avec les cochons. Alors que les cochons mangeaient ce que la maison mangeait. Alors, cette intimité entre gens et animaux, très intéressant, qui soit cassée en Angleterre au moins par la peur de foot mouth.
Oui, de foot disease.
Boucher.
Fièvre afteuse, c'est ça.
C'est quoi?
Fièvre afteuse. Hein.
Ah, ok. Alors, plus besoin de faire manger le cochon avec les restes de la maison. Et ça m'a fait penser aussi, il n'y avait pas un moment à Paris où on servait les restes aux gens plus pauvres?
Les restes
des repas qui...
Ah oui, oui, bah
c'est toujours le cas, hein, parce qu'en fait, il y a énormément, dans l'aide alimentaire.
Mais qui était sur
sur la table.
Là.
Oui, pour les banquets, effectivement, festifs, on redistribuait. En fait, il y a toute une industrie, un commerce des restes. Alors, soit on offre les restes de la table aux domestiques, qui eux-mêmes soit consomment. Bon, c'est vrai que on consommait en quantité, hein, donc il y avait beaucoup de restes sur la table. Donc, les restes revenaient aux domestiques. Généralement les domestiques des invités, hein, chacun mangeait les restes de son maître en fait. Et les domestiques, après avoir mangé ou pas, revendaient aux pauvres. Donc ça sortait de la cuisine et il y a encore un commerce. Mais ces restes-là, c'est soit sur la table, mais aussi dans les assiettes. Hein, les gratturiers, les gens qui nettoient les assiettes, qui vident les assiettes, hein, eux aussi font du commerce de ces déchets vraiment alimentaires qui étaient dans les assiettes pour les plus pauvres.
Mais je disais que c'est toujours la même chose parce que justement le cheval, il y a eu dans les propositions pour les lasagnes là, il était question de les donner à l'aide alimentaire qui actuellement, il y a de plus en plus de gens et dans des situations les plus diverses qui n'ont plus de quoi acheter à manger, qui donc se retrouvent bénéficiaires de l'aide alimentaire et tous les déchets, c'est basé sur la reprise des déchets des supermarchés. De l'agroalimentaire également. Donc voilà, on peut dire que les modèles perdurent malgré tout.
Oui, c'est comme soit on a très peur que ça soit trop proche, à l'opposé, surtout aux États-Unis, on a des journalistes comme Michael Pollan qui dit on va régler tout ça si tu regardes le fermier dans les yeux et tu achètes ce qu'il a fait grandir. Donc, une espèce de proximité qui va s'assurer que la viande soit bonne, mais à l'autre opposé, on a peur que ça soit trop proche.
Et en même temps, en faisant ça, on oublie tout un métier qui est le métier de boucher. Parce que quand on est dans les filières courtes, comme elles se développent en France actuellement pour la viande, il y a forcément un intermédiaire, et il y en a toujours eu un. Vous parliez du cochon, c'était des petits animaux qu'on pouvait abattre chez soi. Pour le bovin, ça n'a jamais été le cas. Et cet intermédiaire-là, qui est le boucher, je vous parlais de la difficulté qu'il avait à devoir vendre toute cette viande. Les éleveurs qui maintenant en France vendent en direct passent par un circuit industriel, souvent des ateliers de découpe. Et du coup doivent mettre sous vide cette viande que les consommateurs qui l'achètent vont congeler. Et donc en fait ce système de vente directe, finalement, en squeezant l'intermédiaire qui était le boucher, qui, comme me disait un boucher, les clientes me disent où je vais chercher ma viande, je ne vais pas l'acheter en supermarché, il l'achetait aussi en direct. Là on est avec la vente directe, on va renforcer des circuits industriels en se passant de ce savoir-faire de transformation qui était basée sur d'autres méthodes que celles amenées par le froid. Donc le local et la proximité, c'est pas on parlait de qualité liée à l'identité nationale, le local n'est pas forcément un gage de qualité. Il y a aussi tout le savoir-faire. On peut, avec un produit standard, avoir toute une identité culturelle liée à un lieu pour la transformation de ce produit-là, qui à la base, les ports danois inondent l'Europe, et on parle des charcuteries corses faites à partir de ports danois. Il n'en reste pas moins qu'il y a une culture de la transformation artisanale ou culinaire qui va être propre à un lieu aussi. Donc le local, il faut l'envisager pas uniquement par le mode de production, mais vraiment toute une chaîne de la production au mangeur aussi, dans ce que vous disiez, dans l'intimité qui va pouvoir imprégner à son aliment juste avant de manger, quand les gens cuisinent encore. Parce que ce qui est frappant par rapport à tout cet imaginaire autour de l'alimentation, c'est que ça n'a aucun lien du tout avec les pratiques que les ethnologues ou sociologues comme nous regardons au quotidien, où malgré tout les gens cuisinent de moins en moins ou assemblent au mieux. Donc voilà, et juste pour rappeler ça.
Alors justement, à travers toutes les pratiques que vous évoquez, on a aussi des nouveaux enjeux qui émergent, comme la notion de durabilité par exemple, ou les aliments bio. Sidonie Nolin, est-ce que dans la gastronomie, et plus particulièrement dans le journalisme qui se fait la critique gastronomique, est-ce que ces enjeux-là apparaissent d'une manière ou d'une autre. Et est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'assister à la création d'un nouvel élitisme ?
Alors, sur le deuxième point, je ne me prononcerai pas. Pour le bio, c'est compliqué parce que moi, j'ai étudié un magazine depuis sa création en 1947 jusqu'en 2010. Donc, on voit au travers de ce magazine l'évolution du contenu. Et c'est le magazine Cuisine et Vins de France qui était le principal magazine de cuisine depuis la Seconde Guerre mondiale en France. Donc, qui avait une sorte de monopole sur ce marché-là avant que la concurrence arrive dans les années 80. Et dans ce magazine-là, typiquement, on voit... les produits bio apparaissent progressivement, mais j'ai l'impression, alors ça demanderait à être vérifié de manière plus systématique, mais que la presse, en tout cas, est plutôt suiveuse dans cette démarche-là que réellement l'élément qui amorcerait les changements de comportement. En revanche, il y a peut-être un lien avec ce que vous disiez précédemment, qui est notamment avec l'émergence des blogs culinaires et notamment, il y a toute un certain nombre de blogueurs qui sont autour des questions de nourriture bio, notamment, et de végétarianisme, je ne sais pas. je demande la confirmation. De la nourriture végétarienne. Et ces blogueurs donc proposent des recettes adaptées à leur conviction et à leur façon de voir l'alimentation, mais proposent notamment de nouveaux produits qui viennent du monde bio, donc par exemple des algues pour faire des gélifiants qui n'étaient pas utilisés dans la cuisine traditionnelle, ou le sirop d'agave qui remplace le sucre, différents produits un peu différents qui n'étaient pas connus dans la cuisine traditionnelle et qui, par l'intermédiaire de leur usage dans des types de cuisine spécifiques, vont progressivement intéresser les journalistes grand public qui ne s'adressent pas forcément à l'électorat, qui s'intéressent spécifiquement au bio ou à la nourriture végétarienne. Et donc, par le côté distinctif qu'apporte la découverte de nouveaux produits, on va se réapproprier en fait des éléments comme ça de cette culture-là. Après, je ne suis pas certaine que la presse soit forcément pionnière. Alors, sans doute peut-être de plus en plus, mais je ne sais pas, je saurais pas dire si c'est un rôle plutôt de suiveur ou de promoteur de nouvelles façons de s'alimenter.
Et justement, c'est vrai que ces régimes biologiques, parfois on les représente comme des régimes assez onéreux, qui sont plutôt pour des classes sociales assez privilégiées et moins pour des classes sociales plutôt populaires. Espèce Probine, tout à l'heure, vous nous parliez de publicité. Est-ce que les enseignes de grande distribution, par exemple, aussi travaillent sur l'image des produits biologiques pour essayer de montrer qu'ils sont abordables, par exemple ?
C'est très intéressant quand on pense à Whole Foods, qui est le plus grand syndicat, entreprise de bio, a été acheté, je crois, par Kraft ou un autre. Lorsqu'on regarde de près tous ces éléments qui étaient un peu artisanal, mais maintenant sont achetés par les plus grands multinationales. Et on devrait dire que le prix va baisser un peu. C'est vrai dans un sens. Et ça varie. Ici en France, je n'ai pas l'impression d'aller dans un supermarché, de trouver ces choses aussi difficilement trouvables. Tandis qu'en Australie, c'est plein, comme le quinoa, c'est mainstream maintenant. Ce n'est pas tout à fait mainstream en France que je vois. Mais pour moi, c'est toujours la question de comment on fait entrer la question de la classe socio-économique dans tous ces débats qu'on connaît très bien, qu'il y a un élitisme. Il y a une espèce de vision très étroite et limitée. C'est un vrai enjeu de comment faire vivre tout le monde de façon équitable et saine. Et lorsque les situations deviennent de plus en plus graves et économiquement, comme vous avez dit tantôt, les restes qui vont pour faire manger des sans-abri ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de très, très urgent. Mais comme vous avez dit tantôt, avec l'alimentaire, c'est soit célébrer, plaisir, etc., soit la peur. Mais c'est quelque chose de quotidien. Il n'y a pas de quoi plus au quotidien que l'alimentaire. Et le débat ne évolue pas vraiment, ou doucement, graduellement.
Oui, j'avais deux choses à ajouter. À propos du bio, il y a des chercheurs qui travaillent sur cette question-là et qui montrent que c'est assez difficile en fait, d'arriver à évaluer qui est un consommateur de bio, parce que les gens, généralement, ne consomment pas uniquement bio et piochent sur certains produits. Et il y a aussi des décalages, d'après les études, entre l'intention de consommer bio et l'image positive qu'on a de ces produits et la part très, très, très restreinte que représente cette partie de l'alimentation dans la part globale des budgets alimentaires. Et une autre chose qui est un peu différente, à propos de l'origine des produits aussi, et c'est devenu assez... maintenant, c'est quasiment un lieu commun dans les critiques de restaurants. Et dans les cartes des restaurateurs, de plus en plus, vous l'avez peut-être constaté, les restaurateurs indiquent d'où viennent leurs produits, et notamment le nom du producteur. Alors, il y a un effet de distinction qui est assez fort, parce qu'il y a certains producteurs qui, simplement par leur nom, indiquent la qualité du produit. Et quelle que soit finalement leur façon de le produire, hein, ce n'est pas forcément des producteurs bio, raisonnés ou autres. Donc il y a cet effet de distinction qui est décalé en fait, du plat au produit. Même un légume peut devenir distinctif parce qu'il a été produit par Joël Thiébault plutôt que par on ne sait pas qui. Et les journalistes reprennent ça aussi beaucoup. Donc ça devient un nouveau moyen de distinction qui va revaloriser un personnage qu'on ne voyait pas du tout auparavant dans la presse gastronomique, qui est le producteur. Enfin, la personne qui fait le maraîcher, qui fait les légumes, était complètement absent. Et maintenant, certains maraîchers, certains producteurs de fruits deviennent des personnes visibles par la qualité de ce qu'ils font, la qualité de leurs produits, qui va être reconnue par un ensemble de professionnels de l'alimentation.
Je vous propose de passer à quelques questions de la salle, puisque le temps nous est compté. Je vous rappelle bien entendu qu'il y aura une performance culinaire, donc une sculpture culinaire à la suite de ce débat, une sculpture culinaire qui est mise en place donc par Julie Fruchon et Alessandrine Leclerc. Sculpture culinaire, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, qui est donc constituée d'un Bloody Mary déconstruit, de vodka en cube et de légumes rouges assaisonnés. On vous demandera d'ailleurs, pour déguster cette sculpture, de vous laisser servir, puisqu'il y a des personnes qui vous apporteront les mets sur un plateau, ou en tout cas qui vous serviront. Je propose d'ouvrir la discussion et de prendre les questions.
Oui, bonjour. Ce n'est pas du tout une critique, c'est un additif, c'est le cas de le dire. En ce qui concerne les déchets et la distribution des déchets, c'est tout le contraire, excusez-moi. Dans l'histoire, effectivement, et ça fait partie du christianisme, hein, ça relève de la culture des moines, etc., comme par ailleurs le bouddhisme, où les moines bouddhistes vivent uniquement des dons qui leur sont faits pour se nourrir, c'est le contraire en ce moment. C'est-à-dire que il y a une guerre qui a commencé. J'en fais pas partie, je vous le dis tout de suite. Hein, je suis pas un militant ni quoi que ce soit, mais c'est un fait. Enfin, il suffit de lire les journaux, de voir sur Internet, etc. Il y a une guerre, d'une certaine manière, à la porte des supermarchés et des hypermarchés. Ça date de relativement peu de temps. Les gens qui se fournissaient dans des poubelles et des choses comme ça, je sais ça de loin. Hein, je sais pas ça personnellement. Sont véritablement chassés. Tous les jours, paraît-il, tous les soirs, par des vigiles et des gens comme ça des hypermarchés, d'une part. Par ailleurs, en ce qui concerne les restaurants, et ça, il y en a un juste à côté, qui est le Flunch, juste à la sortie ici du Centre Pompidou. C'est un spectacle assez hallucinant, tous les soirs, de voir que les plats qui, 10 minutes avant, étaient vendus tel prix, assez cher d'ailleurs, il y a un sac poubelle et les employés jettent systématiquement les plats préparés les plutôt que de les donner à Emmaüs ou à tout ça. Donc c'est exactement le contraire. Hein. En ce moment, il y a un durcissement, il y a une agressivité même, alors qu'avant, il y avait le christianisme, bouddhisme, etc.
Quand je faisais référence à l'aide alimentaire, je faisais référence à toute la structuration autour des banques alimentaires qui ont été fondées dans les années 80. pour récupérer les invendus des supermarchés. Aujourd'hui, les supermarchés ont souvent développé une signalisation des produits en fin de vie qu'ils vendent. Donc, tout le système des banques alimentaires repose sur ces produits de supermarché. Donc, je ne faisais pas référence aux restaurants ou aux personnes qui vont récupérer directement dans les poubelles, mais à un système qu'on trouve aussi aux États-Unis, puisque le modèle était américain au départ, là, des food banks, et voilà.
Elisabeth,
je voulais juste savoir votre propos quand vous avez dit c'est le contraire de quoi ?
Je voulais dire qu'il y a une rupture en ce moment, il y a un durcissement, une aggravation, oui, une agressivité, une brutalité qui rompt avec l'aspect de civilisation sur une histoire de longue durée, chrétien dans ces contrées ici et bouddhiste ailleurs.
Vous voyez, oui. C'est ça que je suis en accord absolument avec vous et je crois que c'est la peur de la judiciaire. C'est pourquoi on ne donne plus les gens, parce que si quelqu'un devient malade, ils peuvent porter plainte. On est rendu dans une société tellement coincée par les règles et les lois. Moi, j'étais serveuse pendant 10 ans et je vous dis, on mangeait sur les assiettes des gens. Et c'était des restaurants de fruits de mer.
D'autres questions ?
Oui, bonsoir. En fait, je me disais que dans les imaginaires comestibles, s'il y a eu une transformation, il y a aussi une transformation dans les imaginaires comestibles des animaux eux-mêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on assiste à une attention particulière qui est portée sur ce que mangent les animaux que nous mangeons, c'est-à-dire en particulier les farines alimentaires qui arrivent dans les poissons, ou la brebis qui se trouve à manger sa mère, ou la vache folle qui mange de priante qu'avait sa mère dans les eaux, des choses comme ça. Donc on se soucie de la diète alimentaire des animaux, et en même temps, en parallèle aussi, des animaux domestiques. Les rayons de nourriture aux animaux domestiques n'ont jamais été aussi fournis. Il y a des plats aussi cuisinés de manière aussi sophistiquée que le nôtre, que ceux des humains, pour les chats, pour les chiens, Donc, je me demande en quelle mesure, effectivement, cet imaginaire comestible-là, il s'est alimenté, comment il interfère avec notre propre conception de l'aliment pour nous. Et je crois qu'on est, en termes de représentation, on est passé du chien charognard au chien gourmand, et sans compter que peut-être aussi à la peur que le chien finisse dans notre assiette. Donc, comment toutes ces représentations-là se croisent et...
Est-ce que je peux très vite m'en dire quelque chose? J'ai fait une étude sur la vente de kangourous. Et c'est très intéressant parce que c'est un animal qui est tout à fait adapté pour le terrain australien. Il est libre, il est très peu gras, etc. Mais en Australie, ça se vend, c'était pour les animaux. Alors, dans les supermarchés, tu as rangé pour le kangourou pour ton chien, et puis là, un tenderloin of kangourou pour soi-même.
Valérie?
Ce parallèle entre l'animal domestique, ce petit animal qu'on a chez soi, et le fait qu'on se l'approprie et qu'on veut qu'il vive et qu'il mange comme nous, c'est une vieille histoire. Dans les représentations de banquets, justement, il y a toujours un petit chien. Alors, il y a le gros chien qui est en bas, qui mange les restes, les os. Et puis le petit chien qui est sur la table et qui mange à l'assiette du seigneur aussi. Parce que c'est le petit animal qu'on a tout le temps, comme aujourd'hui, les dames qui ont le petit bichon, là, ou je sais pas, ou le petit, et qui lui parle comme un enfant et qui lui donne exactement ce qu'elle mange, etc. On le voit déjà sur les tables au 15e, au 16e. Ah bon, c'est vrai?
On trouve les chiens dans les magasins de vêtements. C'est comme...
Encore parlons des lois, des régulations, etc. Il n'y a pas moyen qu'un chien soit dans un magasin, quoi que ce soit en Australie. Mais là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire s'il a envie de faire pipi ou quoi que ce soit? Il va sortir.
J'aurais deux petites questions. La première à Sidonie Nolin, qui nous a parlé un peu de la réticence primaire, en tout cas des journalistes gastronomiques, quand ils ont été confrontés à ces émissions de télé-réalité, qui selon eux véhiculaient pas ce qu'ils auraient aimé voir mis en avant par la cuisine. J'aurais aimé savoir en fait qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir mis en avant dans la cuisine. Ça me paraît intéressant de savoir qu'est-ce qui est important pour eux, à part l'hédonisme. Et deuxième point, puisqu'on a une table ronde féminine et on a beaucoup parlé de viande, ce qui est dans les stéréotypes, en tout cas français, on associe plutôt la viande à l'univers masculin et le poisson à un univers féminin. Et je serais assez intéressé de savoir, en France en tout cas, c'est vrai qu'autant dans le monde de la viande, on a beaucoup de représentations masculines. Et c'est vrai que dans la partie pêche, on a beaucoup dans les ateliers de mariage, traditionnellement, des femmes qui travaillaient dans ce qui était un peu différent. Et bon, je voulais savoir s'il y avait des études qui étaient faites sur cette construction de représentations différentes entre viande et poisson et les sexes.
Alors pour les journalistes culinaires, en fait, leurs reproches vis-à-vis de ces émissions rejoignaient tout à fait ceux des professionnels, des restaurateurs, qui en gros trouvaient que dans ces émissions on voit beaucoup de spectacles et on insiste sur l'émotion et sur la personnalité des candidats et on voit très peu de gestes culinaires, de pratiques et de techniques. Donc ça c'est le premier point. En gros, on a une vision de la cuisine où on a directement de l'ingrédient et le plat final sans passer par tout le travail qui est assez euphémisé finalement. On le voit de manière très scindée, enfin, sans jamais voir le processus d'un bout à l'autre. C'est le premier point. Et le second point, c'est le côté enjolivé, on pourrait dire, de la cuisine, qui présente ça comme un loisir, comme quelque chose de facile, où n'importe qui pourrait devenir grand chef rapidement, alors que les personnes qui connaissent l'arrière-salle, en tout cas, enfin les cuisines, voient ce métier comme quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement laborieux, d'extrêmement long, d'extrêmement difficile. Et toutes ces difficultés du métier ne transparaissent absolument pas, justement, par l'esthétisation qui en est donnée par le biais des émissions culinaires.
Je dois dire que le MasterChef en Australie est beaucoup différent que la version ici. Je disais à Nélis, je trouvais que ça, c'était pas mal moche, parce que nous, on met beaucoup d'argent et puis il y a beaucoup plus d'efforts de mettre sur le métier. Et chaque année qu'il y a le concurrent devient en effet un assez grand nom dans la cuisine. Mais c'est juste la différence nationale. Quant pour l'opposition viande-poisson, je ne sais pas si je connais ça, je ne sais pas. Évidemment, la viande, manger la viande, blablabla. Bla, bla. Et les bouchers qu'on trouve sont souvent les hommes. Mais le côté poisson que je regarde, oui, dans l'ensemble de tout le travail qui se fait à l'arrière du poisson et de la pêche, est féminisé au 80%. S'il y a une question de distinction, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas tellement portée sur les questions du genre comme ça. Pour moi, c'est plus de penser en termes réels ce que ces pubs ignorent. D'un côté, si tu veux vendre ton poisson, mais merde, parle donc à la consommatrice. Ça, c'est juste pragmatique. Mais deuxièmement, c'est tout le travail, comme vous avez dit, à l'intérieur, à l'avant, en arrière de ce qu'on voit, de ce qu'on mange, qui est tellement féminisé. Et ça, on ne voit pas. Ce n'est pas les termes symboliques qui comptent vraiment pour moi.
Oui, par rapport à l'imaginaire de la viande liée aux hommes, j'ai fait des enquêtes, par exemple, dans le monde rural auprès de personnes âgées. Donc, elles me racontaient que la viande, tous les produits animaux, donc c'est des personnes qui avaient 70-80 ans, dans leur enfance, allaient à la soi-disant force de travail qui était le père, comme si les femmes ne faisaient rien, mais en tout cas que les souvenirs de ces, il y en a eu plusieurs hein, qui me racontaient dans leurs souvenirs voir passer le lard, voir passer les omelettes. C'était des familles très nombreuses, donc il y avait les poules avant l'élevage industriel, il n'y avait pas assez de poules pour 15 enfants. Ça leur passait sous les yeux et c'était l'homme en fait qui mangeait ces produits animaux là. Ce qu'on voit, je travaille aussi au Mali, ce qu'on voit aussi actuellement au Mali avec le phénomène d'urbanisation, on mange plus de viande et les hommes mangent plus de viande. Les portions dans les plats familiaux sont vraiment minuscules et c'est pas forcément de la chair, ça va être du gras, des aponevroses, des os. Les hommes vont souvent compléter cette part de protéines dans les débiteries, dans les lieux où ils vont pouvoir consommer de la viande grillée. Du coup, la viande va être très liée au sexe et quand un homme drague une femme, c'est lié à des invitations à manger de la viande dans ces lieux-là. Oui, voilà ce que je peux dire. Mais juste une précision par rapport au régime alimentaire. Vous disiez ça aussi dans votre communication. Les femmes sont toujours celles qui sont responsables de l'alimentation et sont celles qui sont les plus sensibles au discours nutritionniste et qui ont un régime aussi le plus et qui évolue le plus. Et les hommes souvent tirent en arrière. Dans des goûts plus traditionnels, sauf quand il y a justement politisation de l'alimentation, durabilité, bio, où l'homme là peut tenir un discours dans la cuisine et s'y retrouve, et à ce moment-là, il va y avoir une évolution par rapport à ces catégories-là.
Et moi, je voulais.
Merci de parler dans le micro parce qu'on enregistre les débats. Là, ce n'est pas vraiment une question, mais une intervention.
Moi, je voulais simplement rebondir sur la représentation de la femme dans les scènes de poissonnerie, dans la peinture hollandaise. C'est souvent la femme qui vend le poisson, alors que celui qui pêche, c'est l'homme, mais la femme est là pour vendre. Généralement, c'est propice à tout type d'allusions sexuelles et autres, voilà, parce que la poissonnière, elle est plutôt ouverte d'esprit, et donc quand il y a un homme qui arrive là, elle ne vend pas que du poisson. Voilà.
Et chez nous, tu peux passer des minutes avec les bouchers en Australie, et ça jase, ça flirte, ça drague, c'est incroyable.
Dernière question. Est-ce qu'il faudrait qu'on interrompe après pour pouvoir expérimenter l'installation, parce qu'elle se déguste plutôt fraîche et c'est déjà prêt depuis une vingtaine de minutes. Mais on a le temps d'une dernière question. Une dernière question. Non, mais on va plutôt prendre des questions, parce que si on prend les commentaires, là, on ne sera pas sorti. Allez-y. Ben, j'essaie de...
Oui, pour confirmer la sexualisation, là, en France, on dit toujours les dames de la halle, les harangères. Ça a été c'était une tradition historique constante, que c'était des femmes qui s'occupaient du poisson aux halles de Paris, enfin dans la longue tradition. Et par ailleurs, un des grands romans érotiques français de récents, c'est Le Boucher de Alina Reyes, écrit par une femme, donc, et ça s'appelle Le Boucher, c'est remarquable d'ailleurs, et écrivant, insistant sur le fait que chez les bouchers traditionnels, enfin dans les boucheries, c'est un boucher qui est là et qui dit « je vous en mets un peu plus », etc. Et chaque fois, il y a un rire de connivence. Mais à la caisse, c'est une femme.
Bon, merci à tous.
Oui, on va conclure sur ce bon mot. Et on va vous inviter donc à sortir et à profiter de notre sculpture culinaire. On remercie évidemment toutes les intervenantes d'être venues ici.